Du pied de ces falaises, des millions d'années géologiques de craie, de silex nous contemplent. Merci Olivier Bénis.
Je vis sur les falaises d'Étretat.
CO2, mon amour.
J'adore positivement ces falaises. Je n'en connais pas de plus belles et de plus saines. Je veux dire saines pour l'esprit. C'est une admirable route entre le ciel et la mer. Une route de gazon qui court sur cette grande muraille de craie blanche au bord de la terre, au-dessus de l'océan.
Denis Chesson.
Mes meilleurs jours sont ceux que j'ai passés étendus sur une pente d'herbe à 100 mètres au-dessus des vagues, en plein soleil, à rêver.
Sur France Inter.
Votre émission qui prend le temps de ne pas aller trop vite sous l'égide de Maupassant, c'est quand même pas mal. Bonjour à tous, bienvenue dans CO2 mon amour. C'est donc la nature qui chuchote à vos oreilles avec des vagues aujourd'hui à la technique. Mathias Alléon est assisté de Camille Blanès, c'est Xavier Pistuggia qui réalise l'émission. Mais auparavant, mais Paris, mais pas uniquement et heureusement pour la capitale du Royaume de France, hein, même si la chanson de Nougaro, Made in Sud-Ouest, est belle. Le lilas et le muguet partout en France, en mai en Europe, avec ou sans Gainsbourg, lilas qui poinçonne nos cœurs de mauve, de blanc, de rose, lilas voyageur. Bah oui, parce qu'en fait, il poussait à l'est de la Roumanie. Notre lilas prolifique après fut amené à la cour de Soliman le Magnifique, qui avait signé pour le job de sultan de Constantinople. Hein, il avait un CV qui était assez parfait. Et quelques années plus tard, il donna son lilas à son ambassadeur autrichien, qui le ramena en Europe et qui l'offrit à François Ier à l'occasion d'un voyage en France. Ça commence. C'est comme ça. Mais c'est le mois des cerises, des guiches, des pendants d'oreilles, du têtard transformé en grenouille, des nuages en osier pour bercer les hirondelles, des petits chamois acrobates du vide qui cabrissent sur leurs premiers rochers. C'est aussi le mois de la fougère aigle avec ses 3 millions d'années et aussi des petits veaux marins, vous savez, les petits phoques qui reposent sur les plages à marée basse au Hourdel, en baie de Somme ou en Normandie. Mais moi, des bisous dans le cou et le grand souffle chaud de l'histoire. Alors nos hectares de blé sont en grande partie nettoyés des taches de sang du coquelicot, des cocardes lumineuses du bleuet de France, nos couleurs nationales. Cette disparition chimique programmée n'a curieusement pas fait vibrer l'hypersensible corde patriotique de ce carteron en culotte de peau à la retraite qui nous menace de reprendre les choses en main. Moins 80% d'insectes en 30 ans et nous les oiseaux qui tentons de gazouiller à la campagne, c'est plus des champs, c'est un institut médico-légal. Un tiers d'oiseaux agricoles en moins en 15 ans, selon le CNRS et le Muséum d'Histoire Naturelle. 5% selon Monsanto et la FNSEA. Bon, le suivi des oiseaux communs est sans appel et je vous rassure, la future PAC, si j'ose dire, sera de nouveau chimiquement verrouillée. C'est un monde merveilleux. Alors bien sûr, on va toujours trouver, au détour d'un pavé d'ijoin, au creux d'un muret de pierre sèche, la fleurette de poésie sauvage qui s'acharne à pousser en toute liberté. Et nous aurons droit aussi à nos bouquets de muguet cultivés sous serre, dont on a un peu oublié les origines, aux flots impétueux, mais distanciés, de drapeaux rouges dans la rue. D'ailleurs, y en a-t-il encore? Alors allez, dansez des fleurs, chantez les nids, tout ce qui vient du ciel est béni. Espérons des sourires sous le masque des terrasses ouvertes en mai, joli mois de mai à Paris et partout. Embrassons-nous des yeux, folle ville, même s'il pleut pour le 1er mai. Et dans quelques instants, je vais vous emmener respirer en Seine-Maritime. Vous allez avoir la Manche, les embruns, le ciel, des oiseaux et Étretat.
Call me a fool, call me a fool, play hard for lonely heart that's gone to the bone. Thought I had it under control, but it shook me, gripped me, grabbed my soul.
Valérie June sur France Inter. Ah bah tiens, elle a un mois d'avance. Je vous emmène maintenant avec cette balade écologico-géologico-grand air en Seine-Maritime.
Être Tahoe, c'est d'abord une curiosité géologique avec un paysage qu'on peut qualifier d'unique au monde. Des falaises de craie et de silex, percées avec des aiguilles. Le seul endroit dans le monde où on peut en voir sur notre planète, c'est ici, à Étretat et nulle part ailleurs. Quand on prend conscience du temps qu'il a fallu pour former ce paysage, ça nous oblige à une certaine humilité.
Oui.
Ça nous rappelle au caractère très furtif de notre passage sur cette planète, en tant qu'homme, individu ou même en tant qu'humanité tout entière. Et donc, on pourrait le dire autrement, respect la nature.
Ouais, c'est ça.
Elle s'est débrouillée toute seule.
Alors Montpassant, dans sa courte vie, était très heureux de venir ici. Il a décrit, on le sait, des rudes, hein, des Cauchois, leur visage, leur nature humaine, mais aussi les paysages. Et avant d'être une carte postale, je vous emmène dans une immense affaire géologique, dans un gala de galets à Étretat et ses environs. Une arche de craie plongeant dans la mer. Ah, Monet, Boudin, Courbet, Dufy, Braque, où êtes-vous? Ah ben là, avec vos chevalets, et oui. Tous sont pris sur cette côte des leçons de lumière. Et, cher Arsène Lupin, quelle mise en scène, rien que pour vous, signé Maurice Leblanc, comme la craie. Des peintres, des écrivains et même des aviateurs, des fous du ciel, puisque le 8 mai 1927, l'oiseau blanc, et oui, toujours le blanc, quitte le Bourget. Ningesser et Colly passent à Étretat, car Ningesser, il y avait de la famille et c'est ici qu'on les vit pour la dernière fois, donc en France. L'oiseau blanc et après, maintenant, Charles et François, où êtes-vous? Alors nous avons de l'air, des vagues, nous avons le lieu, il nous faut les mots. Cyriac Le Tuilier. Cyriac Le Tuilier, quand il n'est pas maire de sa petite commune de la poterie de Cap d'Antifer, raconte la beauté, l'histoire, la nature.
Pour remonter à l'époque des dinosaures, entre moins 180 millions d'années jusqu'à moins 50 millions d'années, et à cette époque-là, ici, on est sous un climat tropical. On est au fond d'une mer. Une mer chaude, peu profonde, dans laquelle foisonne la vie, avec de nombreux animaux à coquille calcaire, mais aussi des algues, les fameux coccolithes. Ouais, des algues qui absorbent le CO2 de l'atmosphère et qui en fabriquent une coquille calcaire. On est en pleine période des dinosaures. On peut trouver des fossiles de dinosaures dans la craie à silex des falaises qu'il y a entre le Havre et le Tréport.
Et alors, en fait, les creux et la fameuse aiguille creuse, donc ça c'est quoi? C'est de l'érosion, c'est...
Oui, alors il y a eu ce phénomène de soulèvement du plateau, oui, de l'ensemble du bassin parisien. On parle de plateau, mais on pourrait plus facilement l'imaginer sous forme d'assiette creuse ou de pile d'assiette creuse. Oui. Cette pile d'assiette creuse, elle s'est formée par l'accumulation des coquilles calcaires et les mouvements de la croûte terrestre ont conduit à soulever la pile d'assiettes. Mmh. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, on est au-dessus du niveau de la mer. Et pendant ce soulèvement, la pile d'assiettes a basculé sur le côté. Et quand vous suivez la côte d'Albâtre, en démarrant du port du Havre et en remontant vers Dieppe, vous pouvez percevoir avec un regard, accompagné d'un spécialiste, vous pouvez percevoir l'inclinaison dans la pile d'assiettes des couches géologiques. C'est un véritable livre d'histoire de tout le Crétacé, la côte d'Albâtre.
Rappelez-nous donc à l'époque, entre 150 millions et 50 millions d'années, combien il fallait de temps pour que ce soit monté?
Alors, le rythme d'accumulation des débris calcaires, qui étaient microscopiques, parce que la coccolithophoridae, ce sont des algues, pour les observer, il faut un microscope électronique à balayage x 4000. Hein. Donc ça met du temps à se déposer au fond de la mer. Eh bien, le rythme d'accumulation, selon les savants, il était en moyenne d'un dixième de millimètre par an. Un dixième de millimètre par an, c'est vraiment peu. Et du coup, pour certains scientifiques, la distance qui sépare chaque couche de silex dans son apparition correspond à un cycle complet de la rotation de l'axe de la Terre sur lui-même, ce qui correspond à 20-23 000 ans. Donc là, on s'apprête à descendre des escaliers qui vont nous faire remonter le temps. À chaque marche, on va prendre 10 000 ans.
C'est pour mon anniversaire. J'ai 15 ans.
Mais bon anniversaire, monsieur. Monsieur?
De Montpassant. Guy de Maupassant.
Et alors, le cher Maupassant qui a passé ses bonnes parties de ses vacances, hein, oui. Ici, voilà.
Pour parler de Maupassant, je crois qu'on va se déplacer.
Allez.
On va aller jusqu'à une mini-valeuse qui s'appelle la valeuse Monnier.
Wow.
Et qui va nous donner une perspective encore différente. Parce que là, on est vraiment dans la zone la plus fréquentée sur le plan touristique.
Oui.
C'est vrai que c'est très attractif. Et Trotat, selon l'office de tourisme, c'est plus d'un million de visiteurs par an.
Ouais.
Donc on va s'écarter un peu du tumulte.
Ouais.
On va aller percevoir ce que Maupassant ressentait ici même.
Ah bah oui, là, c'est, dites donc, c'est drôlement agréable.
Alors la pelouse aéro-aline, qui est accueillante, hein, on y est bien, elle est confortable.
Bien, c'est doux.
Elle est composée de plantes qui sont adaptées au vent et au sel. Aéro pour le vent, aline pour le sel. Et cette végétation, elle est adaptée parce qu'elle souffre des deux contraintes écologiques du bord de mer. Le vent ici va poser un problème de sécheresse. Les plantes souffrent de la sécheresse. On est en Normandie, mais alors je sais bien qu'on a des précipitations, il pleut, mais c'est surtout le vent qui dessèche. Moi, quand je suis guide sur l'eau de la falaise, qu'il y a du vent, j'ai soif, j'ai les lèvres qui gercent, et bien les plantes ici
D'accord.
souffrent aussi du dessèchement par le vent. Le sel, lui, par les embruns que le vent va remonter sur l'eau de la falaise, ce sel va brûler la végétation. Donc seules les plantes adaptées à ces deux contraintes écologiques vont pouvoir se développer, les autres vont mourir.
Est-ce que nous sommes sur une valeuse ici ?
Alors ici c'est une mini-valeuse, c'est un terme local, hein. C'est un terme d'origine cauchoise,
ouais.
C'est dans notre patois.
Hein. On a une cinquantaine à peu près, hein, ce qu'on appelle les valeuses là ici.
Tout à fait, ouais. Il y a deux types de valeuses, des valeuses qui arrivent au niveau de la mer, comme celle des Trotats,
ouais.
Qui pour la plupart ont été urbanisées dans le courant du 19e siècle, et des valeuses qui parfois arrivent à mi-hauteur des falaises, et là on parle de valeuses perchées. Elles sont suspendues dans la falaise.
Waouh, le choc. Là ça y est, et on voit, bon allez, presque toute la côte d'Albâtre, peut-être pas les 140 km quand même.
35 km
sous les yeux.
On va d'Étretat jusqu'aux falaises qui cachent Saint-Valery-en-Caux, après Fécamp. Quand on reprend les écrits de Maupassant, et notamment ce fameux courrier qu'il écrit à Gustave Flaubert, son maître.
Paris, le 3 novembre 1877. Cher maître.
Où il décrit de mémoire tout le parcours d'Antifère à Étretat, et d'Étretat à Étigues en pied de falaise.
Après Bruneval, en allant vers Étretat, il existe une fort jolie plage, celle d'Antifère. On y arrive des terres par une petite vallée dont la naissance se trouve près du Tilleul, sur la route du Havre.
Quand on refait ce parcours aujourd'hui,
ce chemin s'enfonce peu à peu.
On a un sentiment d'intemporalité
qui
nous submerge, parce que tout ce qui est écrit Maupassant, on peut encore le vivre aujourd'hui.
Une fois sur la plage, on aperçoit à droite une haute falaise droite qui va vers le Havre.
Et dans nos régions très peuplées et très industrialisées, des territoires où on peut vivre ce sentiment d'intemporalité, ce sentiment de nature que Maupassant venait chercher, eh bien ça se fait rare, très rare.
On se trouve surtout isolé, séparé des autres par cette muraille de falaise en demi-cercle dont la mer bat les deux pointes.
Oula. Tiens, celui-ci, Denis, regarde, il a les ailes bien droites et bien rigides. Un planeur infatigable. C'est un oiseau qu'on peut considérer de la famille des albatros. C'est le fulmar boréal. On l'appelait aussi le pétrel fulmar autrefois. Alors lui, paradoxalement, c'est un oiseau qui a été favorisé par la pêche industrielle, les bateaux-usines.
Oui, parce qu'on a Fécamp sous les yeux au loin. Donc
Ça fait penser au Terre-Neuve.
Oui. Ouais.
Alors c'est un oiseau qui était à l'origine circumboréal, il nichait au nord du cercle polaire.
Mmh.
Et puis il a suivi les bateaux-usines qui pêchent les poissons et qui rejettent les viscères en mer. Et du coup ça a favorisé son développement. Et paradoxalement aujourd'hui, c'est cette même pêche industrielle qui menace ses populations puisqu'il est en régression, comme la plupart des oiseaux marins d'ailleurs sur nos côtes. La question qu'il faudra qu'on se pose en tant qu'homme, c'est, est-ce qu'on a encore envie de voir ce spectacle ? Est-ce qu'on a encore envie de voir des oiseaux peupler notre littoral et nous offrir ce spectacle qui nous fait rêver ?
Bon, bah dites donc, on va se faire une petite potée, là, Syria, qu'est-ce que c'est ?
J'ai l'honneur de vous présenter l'ancêtre de tous les choux que l'on cultive aujourd'hui.
Oh, bonjour, monsieur chou.
Le chou potager, Brassica oleracea,
oui.
C'est l'ancêtre du chou fleur, du chou de Bruxelles, du chou brocoli, etc. Les botanistes ne sont pas tous d'accord sur son origine. On pense que son berceau, c'est la Mésopotamie. Mais en tout cas, sur la côte d'Albâtre, ce chou sauvage a trouvé un biotope idéal pour se développer. On en a sur toute la côte, sur des densités assez fortes qu'on ne va pas retrouver partout en Europe.
Donnez-moi la crème fraîche avec mon chou farci.
Bien entendu, monsieur.
Oh là là, mais vous n'allez pas manger tout ça?
Si.
Mais à votre âge, ça peut être dangereux.
Mais j'ai toujours vécu dangereusement.
Alors, on a notre chou? Oh ben dis donc, on va continuer notre marché, là. Qu'est-ce qu'on prend?
La bête maritime, c'est l'ancêtre de toutes les betteraves que l'on cultive. Donc la betterave rouge qu'on cultive dans nos potagers, mais aussi la betterave fourragère qu'on donne au bétail, comme fourrage, et la betterave sucrière. Il y a aussi de la carotte à gomme, il y a du fenouil, de l'oseille, un cousin du salsifis. Enfin, on est dans un véritable potager conservatoire. Mais j'aime aussi mettre en lumière que ce potager conservatoire attire les scientifiques. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Monsieur Roduron, spécialiste des carottes, qui était accompagné d'un ingénieur de chez Seeds Close, des graines closes, le semencier. Et ils étaient venus chercher des graines de carottes blanches pour croiser avec une variété de carottes potagères afin de transmettre la capacité de résistance de cette carotte sauvage à la mouche de la carotte. Et aujourd'hui, ils commercialisent une carotte résistante, ce qui évite d'utiliser ces fameux nématicides, des pesticides qu'on utilise dans le maraîchage. Donc, quelque part, on peut conclure aussi que ce potager, c'est un laboratoire à ciel ouvert.
Donnez-moi du chou farci.
Ah, vous voyez ?
Ah oui.
Les galets et autres valeuses nous attendent toujours avec Cyriac le Tuilier. Après qui ?
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tatatin, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient « Sois prudent, la mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. » C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris au dépourvu. Tant pis, j'ai eu si mal au cœur sur la mer en furie. J'ai vomi mon 4 heures et mon minuit aussi. Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés. Ça m'a coûté des sous, c'est de la plaisance, c'est le pied. Dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en la mer qui prend l'homme, mais elle prend pas la femme qui préfère la campagne. La mienne m'attend au bord, au bout de la jetée. L'horizon est bien mort dans ses yeux délavés. Assise sur une bite d'amarrage, elle pleure son homme qui la quitte. La mer c'est son malheur. Dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en allerons. L'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris comme on prend un taxi. Je ferai le tour du monde pour voir à chaque étape si tous les gars du monde veulent bien me lâcher la grappe. J'irai aux quatre vents foutre un peu le boxon. Jamais les océans n'oublieront mon prénom. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer elle m'a pris et mon bateau aussi. Il est fier mon navire, il est beau mon bateau. C'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau. Et Cavardi, Poigeot, Kersauzon et Ridel naviguent pas sur des cajots ni sur des poubelles. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un vendredi. Ne pleure plus ma mère, ton fils est matelot. Ne pleure plus mon père, je vis au fil de l'eau. Regardez votre enfant, il est parti marin. Je sais, c'est pas marrant, mais c'était mon destin. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons de requins.
Le vent de Renault sur France Inter qui porte nos oiseaux et nos rêves.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
CO2 en amour. Denis Chessou.
Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas votre cas non plus. Donc toujours la direction de la Seine-Maritime. Tenez, début juin, bientôt ce sera le lin bleu, là, ce sera partout, ce sera une merveille aussi ça. Alors soif d'embrun, de beau, de craie sur le tableau sonore de nos oreilles, être ou ne pas être tard. Bah être tard bien sûr, avec le galet. Ah oui, alors là parlons-en, parce qu'il sert de protection quand même, c'est très important, c'est même indispensable, au pied des falaises, donc protection des vagues. Et durant 100 ans, alors là on y a été, on a ramassé les galets, on en a exporté au Japon, on en a fait de la poudre à canon, de la dynamite, des feux d'artifice, de la peinture blanche pour les routes, que sais-je. Et aussi d'ailleurs des lentilles de précision, hein, ça se fait donc à Cailleux-sur-Mer. On en a quand même extrait 10 fois plus que ce que l'on voit quand même aujourd'hui. Alors en 1984, enfin, on a dit stop, on arrête. Gala de galets, vous dis-je, Cyriac Le Tulier.
Et là, pratiquement plus personne. Plage de galets, le goéland pour regarder tout ça, la mer. Et donc, rappeler une chose essentielle, c'est le galet. C'est-à-dire ce galet, en fait, ce n'est jamais que du silex qui après a été roulé dans les mains de la mer.
Quand la falaise s'use, elle recule, il y a des morceaux qui tombent, ça s'effondre, eh bien, la craie va se dissoudre dans l'eau et libérer le silex qui, lui, va être roulé chaque jour par les vagues. Donc les vagues vont polir le silex et le transformer en galet. Assez rapidement, entre 6 mois et 3 ans, ça dépend de l'endroit où il va être sur la plage. Maintenant, le galet, il joue un rôle fondamental au pied des falaises pour préserver le pied de falaise du sapement par les vagues. Il participe à la protection du pied de falaise. Il participe aussi à la protection des villes comme Étretat, qui par endroits sont en dessous du niveau de la mer. Donc là, on va traverser la falaise par un tunnel et ça va nous changer notre perception sonore parce qu'on va être dans l'intérieur de la falaise. Bon, attention, on baisse bien la tête et on fléchit les jambes.
Hop là, allez, suivez-nous, baissez la tête. Voilà.
Ouais, bah c'est pas violent, ça fait une centaine de mètres. On est au milieu.
Ici, tu peux te mettre en empathie avec l'esprit de Maurice Leblanc.
Ah ouais.
L'aiguille creuse, le trésor caché à l'intérieur de cette aiguille dans laquelle il imagine une cavité, une grotte, que l'on pourrait rejoindre par un tunnel, une entrée secrète.
Ouais. Bon, Maurice, où il est où, là, ton trésor?
Oh, ça alors! Ouais. Écarte les herbes et regarde. Ainsi là, à 10 brasses du rivage, existe une cachette incroyable. Tous les trésors des rois, grossis de siècle en siècle, tout l'or de la France, tout ce qu'on tire du peuple, tout ce qu'on arrache au clergé, tout le butin ramassé sur les champs de bataille de l'Europe, c'est dans cette caverne qu'on l'entasse. Oh, qui aurait pu jamais deviner le secret impénétrable de l'aiguille?
Personne.
Si. Lupin.
Ah là là.
Le phare du Cap d'Antifer.
Oh, que c'est beau.
Donc là, c'est la pointe du Fourquet.
Alors, faut laisser quelques instants ses yeux sur les falaises. Et nous avons nos goélands. Nous avons quoi? Nous avons aussi des habitations pour mouettes tridactyles.
Alors là, un goéland marin qui passe en vol avec le dodoir, qui est l'espèce la plus rare qu'on voit sur notre côte. En tout cas, chez les goélands, c'est une espèce rare puisqu'on en recense moins de 180 000 couples sur la planète. Le goéland argenté qui exploite vraiment toutes les parties de la falaise, la falaise qu'on peut considérer comme un immeuble pour les oiseaux. Ouais. On aperçoit dans la petite cavité là-bas, juste à la limite de la craie et de la poche d'argile, dans le creux ici, un fulmar, qui est un oiseau pélagique, qui vient sur nos falaises uniquement pour se reproduire. Le reste de son temps, il le passe en mer au large. Et puis les choucas, donc les petits noirs, qui viennent longer la falaise et qui vont rentrer dans les fissures et les failles. Ici, on change d'ambiance. On était dans une confrontation avec le monde maritime et puis tout à coup, on traverse une lande de prunelliers. Un passage secret, un sas qui va te mener d'un monde à un autre.
Ouais, là, en fait, pour grimper une toute petite barrière qui fait 1 mètre de large et 1,50 m de haut avec 3 marches en bois. Enfin,
ouais, 3 petites marches en bois.
Et de l'autre côté, l'Angleterre, quoi,
130 km du point où nous nous trouvons.
D'accord.
Dans cette direction.
Et là, on est en pleine loi littorale, ici, quand même.
Oh oui, c'est la loi littorale. Moi, en tant que maire, je la connais bien sur une commune comme la Poterie Cadentifère.
Ah bah oui.
Fondamentalement, personne ne la remet en cause, cette loi littorale. La difficulté, c'est dans son application, parce que parfois, elle peut être contre-productive sur le maintien de certaines activités humaines. Mmh. Par exemple, l'élevage, on a des fermes sur notre territoire qui peuvent être contraintes par la loi littorale en termes de développement. Et nous, notre volonté, c'est de préserver ce qu'on voit ici, oui. des prairies qui sont pâturées par des vaches, par des bovins. Et l'élevage s'intègre harmonieusement sur le littoral, beaucoup plus que l'agriculture céréalière ou l'agriculture industrielle.
Syriac, dans la grande Syrie, il y a peu d'endroits où le pied de l'homme n'a pas mis la main.
Oui.
C'est le cas en Seine-Maritime, non ?
Ah oui, je crois que c'est le meilleur des exemples. Selon la revue Agrest, 98% du territoire de la Seine-Maritime est occupé par une activité humaine.
Oui.
Quels sont les 2% restants ? Les fleuves et les rivières.
Bon, alors on se dit quand même un lieu pareil. On a quand même gentiment envie de le préserver, quoi. On a envie de le transmettre.
Bien sûr que c'est un endroit d'ailleurs où la politique de préservation, qui est une politique nationale, ouais. elle a débuté il y a longtemps, puisqu'en 1935, il y a quelqu'un qui est venu de Paris et qui a dit « Tiens, Étretat, on va le protéger avec un site classé, loi 1932 sur les sites et monuments ». L'exigence de préservation du paysage ici, il ne date pas d'hier. Nos aïeux, ils en ont fait des efforts pour préserver ce territoire-là. Malheureusement, aujourd'hui, et ça me traverse les tripes, il y a des politiques nationales qui se confrontent d'autres types de politiques, et notamment la politique énergétique. À partir du mois d'octobre, sur toute la zone maritime, ici, va être implanté un parc éolien offshore de 83 éoliennes qui feront deux fois la hauteur des falaises, 180 mètres de haut, qui flasheront blanc toute la journée et rouge toute la nuit.
Ce sera à combien ? 10, 15 km.
On est d'ici à 15 km. On voit le mât de mesure d'ici. Hein. Je ne sais pas si tu l'aperçois, c'est un petit mât.
Oui, ça voilà. y est. Oui, il faut s'accrocher là.
Donc là, il est au cœur du parc. Alors, on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec les énergies renouvelables. Moi, je suis d'accord. Mais par contre, je m'interroge sur la nécessité d'en développer partout. Parfois, je me dis que il est peut-être temps que la nature divorce de l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, au nom de l'environnement, on est en train de détruire de la nature. Quand je dis nature, on pourrait remplacer le mot nature par émotion. Je crois que ce qui manque aujourd'hui aux décideurs, et notamment à l'administration qui gère l'implantation de ces parcs éoliens, c'est une échelle qui permet de mesurer l'émotion du paysage. Aujourd'hui, il y a des règles qui s'imposent sur le plan physique. La perception physique du projet, elle est bien prise en compte. Mais il n'y a aucune échelle qui permet de mesurer l'impact émotionnel de ce projet-là. Il faudrait faire appel aux artistes, parce que eux, avec leur regard, ils nous permettraient de créer cet outil qui permette de mieux prendre en compte l'émotion.
Bah, je peux vous dire qu'en tout cas, il n'y a pas de module comme ça à l'ENA aujourd'hui. Hein. C'est pas...
Bon, non, mais c'est bien au contraire.
C'est bien d'avoir une belle utopie, hein, parce que c'est intéressant. Non, mais on vous entend et les gens se disent « Ah oui, d'accord ». Mais alors, l'échelle du Richter de l'émotion, ça va être un peu compliqué à faire passer.
Mais c'est comme ça que les peintres de l'école de Barbizon sont allés voir l'administration et leur ont dit « Attention, nous, on va puiser notre inspiration dans la nature, dans la forêt de Fontainebleau ». Et ce fut la première forêt protégée dans le monde.
Elle est sympa, votre sente. Là, on remonte votre valeuse en parallèle. Et alors, si on arrive le soir, parce que là, on n'enregistre pas le soir, Cyriaque, on a ce rayon vert. Le rayon vert, qu'est-ce que c'est ?
Alors, le fameux rayon vert. Eh bien, je connais déjà peu de monde
qui l'a vu.
Je dois dire que je ne l'ai vu qu'une fois dans ma vie.
C'est votre aurore boréale à vous, quoi.
En quelque sorte. Il ne doit pas y avoir beaucoup d'endroits où on peut percevoir le rayon vert. Qu'est-ce que c'est que le rayon vert ? Eh bien, c'est quand le disque solaire disparaît derrière l'horizon et que le tout dernier rayon de soleil traverse la nappe d'eau qui forme un prisme. La Terre est ronde, la rotondité de la Terre fait que quand le disque solaire passe derrière, il ne laisse filtrer que la lumière verte qui apparaît sous la forme d'un rayon, d'un point. C'est vraiment une tête d'épingle qui flash comme ça en, je sais pas, un quart de seconde. Et paraît que quand on voit le rayon vert, eh bien, on prolonge sa vie de 7 ans.
Le rayon vert, vous l'avez vu d'ailleurs, le rayon?
Je l'ai vu, mais ça n'était qu'une fraction de seconde. Lorsque le globe solaire s'est couché à l'horizon, n'est-ce pas? Alors, à la dernière phase, il y a eu comme une sorte d'éclair, vert clair, comme une lame de sabre qui se détachait horizontalement, n'est-ce pas? Et c'est extrêmement joli, mais tout à fait court.
Jules Verne raconte que quand on voit le rayon vert, on est capable de lire dans ses propres sentiments et dans les sentiments des autres.
Vous, vous avez été vraiment fabriqué par ce paysage, hein?
Mes parents étaient boulangers-pâtissiers au Havre. Ouais. Donc j'ai grandi dans le fournil et mon terrain de jeu, c'était les cartons à biscottes dans le fournil.
Ouais.
Mais j'ai passé toute mon enfance et mes vacances chez les grands-parents qui avaient la ferme à la poterie Cap Dentifère.
Ouais.
Et c'est à cet âge, 10-12 ans, que je me suis imprégné des lieux. Comme je le dis souvent, il n'y a pas besoin de vivre ici pour aimer cet endroit. Mais il est vrai que c'est à cet âge-là qu'on s'imprègne d'un territoire et j'en suis devenu amoureux.
Ouais.
C'est pour ça que j'aime beaucoup Maupassant, parce que c'est ce qu'il a vécu quand il a grandi sur Étretat, qu'il parcourait les falaises, qu'il allait pêcher dans les rochers, attraper des crabes, qu'il visitait les tunnels, qu'il l'explorait. Eh bien, j'ai vécu la même chose. En effet, j'ai un rapport avec le territoire qui est un rapport émotionnel.
Cyriaque Le Tuilier, donc encore un formidable raconteur du vivant, de l'histoire, de cet Étretat. Je vous ai mis son site, hein, sur le site de CO2 Mon Amour. Là, vous verrez si vous souhaitez le contacter, donc natera avec 2T et 2R.fr. Et puis, la semaine prochaine, ce sera un autre voyage. Ouais, on ira au bord du Rhône. Merci à Mathias Alléon, aujourd'hui à la technique, à Camille Blanès, notre formidable collaboratrice, et notre coloriste en chef, Xavier Pestugia, qui réalisait l'émission. Thierry Dupin a choisi les disques, Anne Gouzon nourrit les sites de CO2 Mon Amour. Je vous l'ai dit, la semaine prochaine avec Jean-Louis Michelon, nous irons au bord du Rhône. Les podcasts, écoutez, abonnez-vous. Vous avez à la fois l'édito de CO2 Mon Amour, vous avez CO2 Mon Amour en entier, vous avez L'Atu du Mon Petit Loup et vous avez Bestiole. Ah là là, abonnez-vous à Bestiole. Vos enfants vont sacrément vous en apprendre sur les animaux. Le Twitter, Denis Chessou. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de dimanche.